VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 6 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, deux militaires ont été tués dans l'est du pays.
Au Cameroun, le gouvernement dénonce des crimes imprescriptibles pendant la rentrée scolaire dans ces deux régions anglophones.
En République démocratique du Congo, inquiétude sur la recrudescence des enlèvements de civils dans l'est.
La France estime essentiel de tenir les élections présidentielles et législatives le 10 décembre en Libye.
Ici à Washington, colère du président Donald Trump après la publication par le New York Times d'une tribune anonyme d'un haut responsable de son administration.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, deux militaires ont été tués et six autres blessés hier dans l'explosion d'une mine artisanale à Kabonga, dans l'est du pays. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Selon une source sécuritaire, les victimes sont des démineurs qui se rendaient à Pama, dans l'est du pays. Leur véhicule a sauté sur une mine. Cette équipe de démineurs avait été déployée dans la zone pour rechercher et neutraliser les engins explosifs utilisés dans l'est par des présumés terroristes. Il y a une semaine, sept soldats ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal 15 jours après la mort de six personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Dans une note sur la situation sécuritaire dans l'est, le responsable régional de la police, le commissaire Karim Drabo, alerte sur des présences répétées d'hommes armés dans la zone. Il prévient que si des mesures ne sont pas prises rapidement, les assaillants auront le temps de s'installer et de parsemer des engins explosifs autour de sites qu'ils auront occupés dans la région.
Au Cameroun, le gouvernement a dénoncé hier des crimes imprescriptibles commis, dit-il, par des séparatistes pendant la rentrée scolaire dans les deux régions anglophones en crise, dont l'assassinat d'un professeur et la mutilation d'un autre. Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakari, a souligné dans un communiqué qu'aucune cause ne saurait justifier de tels crimes. Il a fait état de 5 établissements scolaires attaqués par des séparatistes.
Au Nigeria voisin, le choléra a tué 14 personnes et entraîné l'hospitalisation d'environ 400 autres. Cette semaine, à Maïdougouri, dans le nord-est, a annoncé le responsable de la santé de Borno, état confronté à l'arrivée de déplacés fuyant le groupe djihadiste Boko Haram. La plupart des 380 cas présumés de choléra et des décès se sont produits dans les camps de Madinatou et d'El Miskine à Maïdougouri, tandis que les autres victimes provenaient des alentours de la capitale de l'état, a précisé cet officier. Le gouvernement nigérian et les ONG travaillent pour contenir l'épidémie qui s'est étendue à six autres districts de l'État de Borno.
En République démocratique du Congo, le directeur général de la riposte à l'épidémie d'Ebola, le docteur Bart Nyoloko, a confirmé à VOA Afrique qu'une personne est décédée du virus à Butembo, la deuxième ville du district de Beni dans l'Est. C'est le tout premier cas mortel confirmé dans cette ville. Il s'agit du décès d'un contact bien connu venu de Beni et qui, à un certain moment, avait refusé de coopérer avec nos services, mais qui était allé se cacher à Butembo, a expliqué le docteur Nyoloko. L'épidémie a déjà fait au moins 85 morts, dont 54 confirmés dans le district de Beni, selon les statistiques publiées sur le compte Twitter du ministère de la Santé.
Toujours en République démocratique du Congo, la société civile s'inquiète dans l'Est de la recrudescence des enlèvements de civils avec demande de rançon. L'armée accuse les jeunes de complicité avec des groupes armés. Le point avec Morgane Guiriec.
En 10 jours, 8 personnes ont été enlevées dans la plaine de Ruzizi, près de la frontière avec le Burundi, selon Claude Missaré, coordonnateur de la société civile à Uvira. Mardi, 3 commerçantes et leurs chauffeurs ont été enlevés à Rushima, toujours dans le sud Kivu. 2 agents de la Direction générale des douanes ont été enlevés au poste frontalier de Vugizo sur la rivière Ruzizi qui sépare la RDC du Burundi. Selon M. Missaré, les ravisseurs exigent 15 000 dollars pour leur libération. Aimable Massoumbouko, militant de la société civile et le chef de la localité de Moutarlé, sont portés disparus depuis une semaine. Ils étaient partis remettre une rançon pour faire libérer d'autres otages, selon André Biadounia Machaka, président de la jeunesse d'Ouvira. Un porte-parole de l'armée a accusé des jeunes de la région d'être complices de ces enlèvements, ajoutant que l'armée prend ses dispositions pour démanteler ce réseau et sécuriser la plaine de Ruzizi.
Au Rwanda, 5 personnes ont été arrêtées pour avoir cherché à soudoyer et intimider des témoins dans le but d'annuler une condamnation pour génocide à l'encontre de l'ancien ministre Augustin Ngirabatware, prononcée par le tribunal des Nations Unies basé en Tanzanie voisine, a annoncé mercredi la Cour.
La France estime plus que jamais essentiel d'organiser des élections dans le calendrier agréé en mai pour la Libye, à savoir des élections présidentielles et législatives le 10 décembre, afin de sortir du statu quo qui ne profite qu'à l'économie de prédation, aux trafiquants et à la criminalité organisée. C'est ce qu'a déclaré mercredi l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux derniers développements en Libye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, nouvelle controverse autour de la présidence de Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a demandé hier soir au New York Times de lui remettre immédiatement pour poursuite le nom d'un haut responsable de son administration dont la tribune anonyme fort critique a été publiée mercredi par le grand quotidien américain. Dans son tweet, M. Trump s'est posé des questions sur l'existence même de ce haut responsable et s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une autre source fausse inventé par le journal qu'il a qualifié de très malhonnête. Auparavant, il avait écrit un tweet composé d'un seul mot en majuscule, trahison. M. Trump a dénoncé un texte lâche.
Dans sa tribune anonyme, le haut responsable en question explique pourquoi et comment il s'efforce, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre, je cite, « les pires penchants du président américain ». Il a dit que le cœur du problème, c'est ce qu'il a appelé « la moralité du président ». La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, s'est déclarée déçue mais pas surprise par la décision du New York Times de publier ce texte dénonçant une tribune pathétique, irréfléchie et égoïste. La veille, les médias avaient publié de larges extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward qui dresse le portrait d'un président colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler, voire de contourner pour éviter, écrit-il, de dangereux dérapages.
Toujours à Washington, Brett Kavanaugh, le candidat du président Trump pour la Cour suprême, a évité de répondre aux questions acérées des sénateurs démocrates sur ce qu'ils pensent de l'arrêt historique légalisant l'avortement aux États-Unis. Il s'est contenté d'affirmer qu'il respectait la jurisprudence au deuxième jour des audiences de confirmation de sa nomination devant la commission judiciaire. Le juge Kavanaugh a d'autre part tenu à revendiquer son indépendance face au président américain.
En Afghanistan, au moins 20 personnes, dont 2 journalistes, ont été tuées et 70 blessées hier dans un double attentat contre un club de sport d'un quartier chiite de Kaboul. Précision d'Irénée Herman Umbo.
Une première explosion s'est produite dans un quartier chiite de la capitale, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish. Elle n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais la minorité chiite d'Afghanistan a été souvent visée par le groupe État islamique. Le porte-parole de la police, Ashmat Stanizei, a indiqué que l'explosion a été causée par un kamikaze qui a fait sauter une charge explosive dans une salle de sport où s'entraînaient des lutteurs. Cet attentat suicide a été suivi peu après par une forte explosion d'une voiture piégée à proximité des secouristes qui s'affairaient autour des blessés. Ces attentats surviennent au lendemain de l'annonce par les talibans de la mort de Jalaluddin Haqqani, fondateur du réseau insurgé éponyme, allié des talibans. Il était accusé ces dernières années de très nombreux attentats suicides qui ont fait des centaines de victimes civiles en Afghanistan.
En Irak, de nouveaux heurts ont opposé hier les forces de l'ordre à des manifestants à Bassora, ville pétrolière du sud. La veille, 6 manifestants avaient été tués. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les forces de sécurité étaient déployées en masse autour du gouvernorat dans le centre de Bassora. Elles ont tiré des grenades lacrymogènes pour repousser plusieurs milliers de manifestants qui lançaient des cocktails Molotov. La veille, mardi, lors d'une autre manifestation devant le gouvernorat, 6 manifestants ont été tués et plus de 20 blessés. Yann Koubis, représentant de l'ONU en Irak, a exhorté les autorités à éviter de recourir à une force létale. Le Premier ministre Haider al-Abadi dit avoir ordonné qu'aucune balle réelle ne soit tirée. La province pétrolière de Bassora est en proie depuis la mi-août à une pollution de l'eau qui a conduit plus de 20 000 personnes à l'hôpital. Au moins 21 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations le 8 juillet pour dénoncer pêle-mêle les services publics déficients, la pénurie chronique d'eau et d'électricité ainsi que le chômage endémique et la corruption.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le ministre sénégalais du Budget a invité les scientifiques à œuvrer pour des recherches adaptées aux besoins du continent. À l'occasion de l'ouverture du 8e congrès de l'Association africaine de comptabilité et finance à Dakar hier, Birima Mangara s'est par ailleurs réjoui de la participation pour la première fois de chercheurs francophones au concours de la Fédération panafricaine de comptabilité sur des recherches consacrées aux objectifs de développement durable. Selon le rapport 2018 Statut mondial des énergies renouvelables, le Kenya confirme sa place de leader en Afrique dans le domaine de la géothermie. Il occupe la 9e place au niveau mondial avec une capacité de 700 MW. Le seul autre pays à exploiter cette ressource sur le continent est l'Éthiopie avec 7 MW. Dans le classement général, les États-Unis sont en tête avec 2500 MW, suivis des Philippines et de l'Indonésie avec 1900 et 1800 mégawatts. Le géant britannique du transfert d'argent en ligne World Remit a annoncé le lancement d'un nouveau service interafricain pour faciliter les activités des entrepreneurs en vue de contribuer notamment à la réduction de leurs coûts d'exploitation.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Ligue des Nations débute en Europe ce jeudi.
Eh oui, l'affiche à Munich entre l'Allemagne et la France. Championne du monde, les Bleus de Didier Deschamps sont de retour. Ils s'apprêtent à rechausser les crampons après leur sacre. Griezmann et ses coéquipiers sont donc opposés à cette équipe d'Allemagne pour le premier match de la Ligue des Nations, la nouvelle compétition créée par l'UEFA. À suivre également République Tchèque-Ukraine, Pays de Galles-Irlande, Slovénie-Bulgarie, Norvège-Chypre, Kazakhstan-Géorgie, Arménie-Liechtenstein, Lettonie-Andorre et Gibraltar-Macédoine.
Un nouveau sélectionneur adjoint pour le Cameroun.
Annoncé depuis plusieurs semaines, l'entrée de Jean-Alain Boumsong dans le staff de l'équipe nationale camerounaise est désormais officielle. L'ancien international français figure sur la liste complète des staffs techniques, administratifs et médicaux des Lions Indomptables publiés par la FECAFOOT. L'ex-défenseur d'Auxerre fait partie des adjoints de Clarence Seedorf, tout comme Lyon Joël Epalé et Patrick Kluivert, sans oublier Bill Tchato, qui hérite du poste de team manager.
Au Nigeria, un adjoint de Gernot Rohr suspendu pour corruption.
Salisu Youssouf, adjoint du sélectionneur de l'équipe du Nigeria, a été suspendu un an. Il écope également d'une amende de 5 000 $ pour avoir reçu des pots de vin de journalistes se présentant comme des agents. Le comité d'éthique et de fair play de la Fédération nigérienne de football a reconnu Youssouf coupable d'avoir accepté 1 000 $ après avoir été pris en photo alors qu'il lui était demandé de sélectionner 2 joueurs pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Youssouf, qui a nié tout acte délictueux, peut faire appel de cette décision.
Récompense pour un joueur marocain aux Pays-Bas.
Auteur de 9 buts et de 14 passes décisives la saison dernière, le marocain Hakim Ziyech vient d'être élu joueur de l'année par la Fédération néerlandaise et le quotidien Des Telegraphes. À 25 ans, le milieu offensif de l'Ajax d'Amsterdam succède ainsi à un autre marocain, son compatriote Karim El Armadi, qui avait reçu le prix l'année dernière.
Enfin, on connaît désormais le nom de l'équipe de David Beckham à Miami.
Oui, l'équipe que l'ancien international anglais lancera dans le championnat nord-américain à Miami en 2020 a révélé son nom. Elle s'appellera Club International des Football Miami ou encore Inter Miami FC. Beckham avait reçu, on s'en souvient, de la MLS, l'autorisation de créer une équipe à Miami pour un prix réduit, 25 millions de dollars contre 150 actuellement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, donc, deux soldats ont été tués tôt mercredi matin lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dans l'est du pays. Il y a une semaine, sept militaires avaient été tués dans la même région et dans les mêmes circonstances. La situation sécuritaire inquiète les Burkinabés. Pour Ismaël Diallo, ancien fonctionnaire international et ancien commissaire de police, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura, le gouvernement n'a pas encore trouvé les réponses appropriées.
Elle est au-delà de la préoccupation, elle est maintenant tragique, tout simplement. Nous perdons de jeunes soldats pratiquement tous les jours à présent. Nous n'avons pas l'initiative du combat. Et c'est cela qui fait l'échec de notre situation.
Et pourtant, le gouvernement avait annoncé quand même des mesures fortes. Hein?
On attend de les voir. Les mesures fortes, c'est dans le renseignement. Bon, cela ne se dit pas. Cela se prouve en neutralisant l'ennemi avant qu'il n'attaque ou en faisant en sorte que dès qu'il attaque, il est mis en déroute et neutralisé dans tous les sens du terme. Mais mieux, il faut prendre de l'avance sur lui. Il faut aller vers lui et il faut le harceler et il faut le détruire. On n'a plus le luxe aujourd'hui d'attendre qu'il attaque et qu'on riposte même soi-disant vaillamment. Ceci est déjà un échec quand on est dans la position de riposte.
Ça fait la énième attaque dans cette région de l'Est, dans la Compiègne. Et on a vu cette note du directeur de la police régionale qui signale qu'ils n'ont même pas un seul véhicule roulant.
Oui, cela doit être vrai, hélas. Et la note du directeur régional de la police est très détaillée. C'est un professionnel qui connaît son travail et qui a une très belle lecture de la situation. Il pose le diagnostic et il fait des suggestions sur quoi faire. Il faudrait simplement qu'on l'entende et qu'on suive ce qu'il a dit, qu'on lui donne les moyens de contrer tout cela. Et dans sa lettre, il dit bien qu'apparemment, ce sont des personnes venues de pays voisins à moto de grosses cylindrées et quelquefois même avec des véhicules 4x4. Comment est-ce que nous sommes incapables de prévenir l'incursion de ces hordes-là et les mettre hors d'état de nuire?
Et on a aussi vu que ces actes terroristes qui étaient d'abord concentrés dans le nord ont vraiment évolué, sont à l'est et aussi au sud du pays.
Oui, quelle que soit la personne ou les personnes morales ou physiques qui instrumentalisent, qui pensent, qui initient, qui inspirent, qui instrumentalisent ces actions, ce sont des opérations coordonnées. Et ce sont des opérations à long terme. C'est une stratégie qui répond à une philosophie, à un plan d'action très clair. C'est harceler nos troupes, les mettre en déroute partout où nous sommes et nous amener à rendre les armes pratiquement. Et puis peut-être occuper certaines parties du territoire. Cela n'est pas du tout exclu.
Ismaël Diallo a été joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Retour sur le Sénégal où l'opposition a voulu tenir un sit-in mardi devant le ministère de l'Intérieur pour contester la loi sur le parrainage, une loi qui oblige les potentiels candidats à recueillir 65 000 signatures d'électeurs pour avoir une candidature valide. Le rassemblement a été dispersé par la police avec des gaz lacrymogènes. La présidentielle sénégalaise est prévue en février 2019, mais les Sénégalais sont déjà plongés dans une atmosphère électorale. De Dakar, reportage de notre correspondant Sédina Abagay.
Avec un quotidien rythmé par la vie politique, le Sénégalais lambda prête une attention particulière aux récents événements, dont la plus marquante est sans doute le nombre de candidats déclarés à la présidentielle de 2019. Ousseynou Ndem est un jeune cadre de société. Il s'inquiète de cette situation inédite.
De ma part, je prie pour que toutes ces candidatures ne soient pas validées, parce que ça montre une défiance au niveau du système électoral sénégalais. Et nous votons aussi, voilà, on aura du mal à choisir un parmi 80, donc, ou plus. Donc il faut repenser ça, donc c'est carré. vraiment inacceptable. Hein. 80 candidats dans un pays comme le Sénégal, c'est bien beau de prôner pour la démocratie et tout, mais quand même, il faut carrément que les choses changent et qu'on voit autrement.
Votée par l'Assemblée nationale en avril dernier, la loi sur le parrainage devrait en principe permettre de rationaliser le nombre de candidats à la présidentielle. Pour Maurice Samba, cette loi a ses avantages.
D'une part, je dirais que le parrainage est un bon filtre pour diminuer le nombre de candidats. Le contribuable va économiser de l'argent avec la diminution du nombre de candidats. En fait, vouloir imprimer plus de 100 bulletins, autant de candidats, autant de votants, donc l'idée du parrainage.
Par contre, Ibrahim Ndiaye pense que le nombre élevé de candidatures montre le manque d'utilité de la loi sur le parrainage.
Et jamais dans l'histoire du Sénégal, pour le premier jour de retrait des dossiers de candidature, on a assisté à un retrait de 100 candidatures, ce qui montre en réalité l'impertinence même de cette loi sur le parrainage. Donc, que si c'était pour limiter le nombre de candidats, mais également pour rationaliser les dépenses inhérentes à une élection, je crois qu'il y avait d'autres canaux qu'il fallait utiliser, comme l'utilisation justement du bulletin unique, qui permet de limiter le nombre de tirages, et qui aurait justement peut-être dissuadé aussi certains candidats.
Les divergences sur le processus électoral et certaines des règles qui l'encadrent dépassent le cadre politique. Si du côté de l'opposition, on tire en groupe sur le pouvoir, au niveau des citoyens, les avis sont partagés sur l'utilité de la loi sur le parrainage, qui à terme doit permettre de rationaliser le nombre de candidats et ainsi diminuer les frais d'organisation de l'élection présidentielle. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Rwanda, et nous vous le disions hier, le Parti démocratique vert, parti d'opposition, fera son entrée au Parlement après avoir remporté 2 sièges sur 80 aux législatives de lundi. Selon les résultats provisoires publiés mardi, la coalition menée par le Front patriotique rwandais, le FPR, s'est adjugée 40 sièges. 27 autres seront attribués à des femmes, des jeunes et des handicapés physiques. Pour une réaction, Timothée de Langmaï a joint à Kigali Jean-Claude Nizimana, secrétaire général du Parti démocratique vert.
Jusqu'à maintenant, c'est vraiment une chose agréable pour nous. Même si on avait prévu d'avoir beaucoup de pourcentage, parce que maintenant on a eu 5%, mais on avait prévu au moins d'avoir 10 personnes qui nous représentent dans le Parlement.
Vous aurez donc 2 sièges au Parlement. Qu'est-ce que cela vous donne comme marge de manœuvre dans un Parlement de 80 sièges?
Les deux places dans le Parlement aussi peuvent changer beaucoup de choses. Et premièrement, c'est le Parti démocratique vert, mais aussi sur la politique ou bien la démocratie sur le Rwanda.
La situation politique au Rwanda continue d'être dominée par le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir et ses alliés. Qu'en est-il de la vie politique dans le pays?
Ce que nous voulons sur le Rwanda, c'est que pour nous, comme le Parti vert, nous voulons qu'il y ait le partage du pouvoir. Mais jusqu'à maintenant, si vous regardez, il y a le partage, mais on ne peut pas dire que c'est à 100%, parce que, comme vous disiez, le parti FPR a beaucoup de représentants, plus que tous les partis qui restent.
D'aucuns disent que le jeu politique au Rwanda est verrouillé avec des opposants en prison et d'autres opposants en exil. Qu'en dites-vous?
Nous apprécions les opposants qui ont leur politique à l'intérieur du pays. C'est une chose qui peut donner une grande contribution qui est la politique du Rwanda. Mais ceux qui ont préféré de faire la politique à l'extérieur du pays, leur contribution est vraiment minime. Parce que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas participer dans les élections. Ils ne peuvent pas avoir la chance de débat qui se fait au forum des partis politiques.
Mais ces opposants disent qu'ils vivent en exil malgré eux. Ils disent que leur sécurité ne serait pas assurée s'ils rentraient au Rwanda.
Je ne veux pas dire que tous les opposants qui sont à l'extérieur ont la même raison d'être ailleurs. Il y en a ceux qui sont à l'extérieur par cause des erreurs ou bien des crimes qu'ils ont commis ici quand ils étaient ici à l'intérieur du pays. Il y en a les autres qui sont à l'extérieur par cause de l'économie.
Jean-Claude Nizimana, secrétaire général du Parti démocratique vert, joint à Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Des enquêteurs de l'ONU sur le Burundi ont prévenu mercredi que de graves violations des droits de l'homme, dont des crimes contre l'humanité, se poursuivaient dans ce pays. La commission d'enquête sur le Burundi a, dans un rapport, dénoncé, je cite, les appels récurrents à la haine du président Pierre Nkurunziza et de ses partisans. Elle dénonce l'impunité et appelle à un apaisement du climat politique avant les élections de 2020. Au micro d'Abdourahman Dia, une des membres de la commission, Françoise Hampton, jointe à Genève.
C'est grâce à des témoignages de gens, surtout dans les pays aux alentours du Burundi, mais aussi de gens qui sont toujours au Burundi. Ça nous a permis de conclure qu'il y a une continuation des violations qu'on avait constatées l'année dernière, c'est-à-dire des exécutions arbitraires, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture et d'autres traitements cruels et inhumains, des violences sexuelles et des violations des libertés publiques. Et aussi, cette année, on a examiné la question des droits économiques et sociaux, et on a trouvé qu'il y avait des violations de ces droits-là aussi. Et c'est grâce à ces témoignages, l'analyse des témoignages, la corroboration de ce qu'on nous dit, et aussi on s'est servi des rapports, par exemple, de la Banque mondiale, du Fonds international monétaire, où ils ont parlé, de, par exemple, du budget du pays et ce genre de renseignements.
Oui, justement, en parlant de méthodologie, est-ce que vous avez pu vous rendre sur place?
On aurait voulu nous rendre sur place, mais malheureusement, depuis le début, parce que la première itération de la commission d'enquête, c'était de 2016 à 2017, et depuis le début, le gouvernement nous a refusé la permission de venir au Burundi. C'est dommage, et ça ne nous empêche pas d'enquêter, et avec les moyens de 2018, c'est même pas difficile d'avoir des contacts avec les gens qui sont toujours au Burundi.
Mais certains pourraient pointer un problème de crédibilité si vous n'avez pas pu vous rendre vous-même sur place.
Je ne vois pas pour quelle raison la crédibilité dépend d'être dans un pays. Ce qui compte, c'est avoir des contacts avec les gens qui ont été victimes ou témoins de ce qui se passe, y compris des gens qui étaient proches au pouvoir. Parce qu'il y en a qui ont quitté le Burundi, qui autrefois étaient proches au pouvoir et même impliqués dans les actes, y compris les violations des droits de l'homme.
Alors le Burundi ira aux élections en 2020. Comment voyez-vous cette échéance électorale?
Eh bien, la période avant des élections, dans beaucoup de pays, c'est une période de tension et une période où il y a un grand risque de violation des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne la liberté de manifester, liberté d'expression et ce genre de droits de l'homme. Et c'est pour cette raison que nous nous inquiétons de ce qui va se passer entre maintenant et 2020. Et nous pensons que c'est important qu'il y ait un système international indépendant et impartial qui peut suivre la situation et voir ce qui se passe au Burundi.
Françoise Hampton de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur les relations entre l'Afrique et la Chine. Le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert à Pékin en présence du président chinois Xi Jinping et la plupart des chefs d'État africains. À cette occasion, le géant asiatique a promis 60 milliards de dollars d'investissement sur le continent. Une annonce accueillie favorablement par bon nombre d'Africains, mais qui suscite bien des questions. Dans quel secteur les Chinois comptent-ils investir? L'influence chinoise grandissante sur le continent fait-elle de l'ombre à l'indépendance des États? Morgane Guériec, en votre compagnie, on en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.